Bonjour, je m'appelle FX et aujourd'hui je vous emmène dans la vallée d'Ilam, la plus à l'est du Népal, et on va aller ensemble chercher du thé, du bon thé, et on va se promener de ferme en ferme à la recherche de ces beaux crus.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué.
Dans cet épisode, François-Xavier raconte le Népal. Avec lui, on a parlé de thé, du yéti et de ravioli.
J'ai bourlingué à travers le monde. On va partir de Katmandou, hein, je pars de Katmandou. Alors de Katmandou, pour y aller dans cette partie du Népal, pour y aller, on a le choix, 15 heures de bus ou une heure d'avion. Si on veut passer plus de temps dans la vallée, et Dieu sait si elle est profonde et si elle remonte loin au nord, on va plutôt prendre l'avion et on a le choix entre deux compagnies. J'ai le choix entre Buddha Air et Yeti Airlines. Après une petite hésitation, je choisis de confier mon sort cette fois-ci au Yeti. Et ça permet d'arriver à Badrapur. Alors à Badrapur, c'est une ville de la plaine. Le Népal, ça se compose un peu en trois parties. C'est un pays tout en longueur. Il y a toute la plaine. Après, il y a les contreforts. Et tout le nord du pays, c'est les sommets. Et donc là, on va traverser de Katmandou avec un petit saut de puce, grâce à notre ami Yeti, on va se retrouver à Badrapur, donc au niveau de la plaine. Et de là, on va trouver une jeep. En général, c'est des vieilles jeeps, pas forcément en super état. Et on va prendre la jeep et on va aller remonter toute la vallée d'Ilam. Et ce qui est assez marrant, c'est le relief, toute la nature va énormément changer parce qu'on arrive pas très loin du niveau de la mer, même si le golfe du Bengale est hyper loin, on est extrêmement bas, donc c'est une végétation particulière, c'est un peu la jungle, le temps est moite, il fait chaud, il faut faire attention quand on sort de la petite aérogare, parfois il y a des cobras sur le parking, il y a des bestioles un peu comme ça, bah oui, c'est quand même un peu la campagne. Et on va remonter donc plein nord, une route, on croise pas beaucoup de véhicules, et cette route va permettre d'aller jusqu'à la fin de la route. En fait, c'est ça qui est assez intéressant au Népal, c'est qu'on prend des routes, et quand elles vont plein nord, c'est une vallée, bah, au fond de la vallée, et un jour elle s'arrête, parce que après c'est des hauts sommets. Et le haut sommet qu'on verra s'appelle le Kanchenjunga, qui est à 8000 mètres, donc c'est absolument incroyable. Et là, notre route fait qu'on part à peu près du niveau de la mer et qu'on va remonter jusqu'à 2005-2004. C'est l'altitude maximale à laquelle on cultive le thé, parce que je pense que vous l'avez compris. Voilà, j'ai un but. Je devrais peut-être commencer par ça, mais j'ai un but quand je voyage. Mes voyages, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est tout ça réuni. Et c'est mes voyages consistent à aller chercher du thé et d'aller chercher des thés, en général des thés plutôt rares. Et ma passion, voilà, c'est de faire ces routes-là, ces routes du thé, et d'aller rencontrer des fermiers et de passer du temps dans les fermes à comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à faire des thés plutôt incroyables. Donc voilà, les thés de base, c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus. Du coup, je vais pas rester. On va tout de suite monter dans la jeep et on va pas rester au niveau de cette plaine parce qu'au niveau de la plaine, il y a des thés mais qui sont pas terribles. Et ce qui est assez moche, c'est qu'en fait, comme on est tout près de Darjeeling, on est tout près d'une ville indienne qui s'appelle Siliguri et du poste frontière qui s'appelle Kaka. Vita. En fait, on voit des camions remplis de feuilles de thé qui quittent le Népal pour aller à Darjeeling, et ça, c'est pas cool parce qu'après, c'est revendu comme des faux Darjeeling et comme du thé indien, et c'est pas vrai, c'est du thé du Népal, et Darjeeling n'a pas besoin de faux, et les thés du Népal peuvent être délicieux, et il vaut mieux vendre chaque chose avec son vrai nom que des tricheries comme ça. Et malheureusement, comme le Népal n'a pas de port, évidemment, il n'y a pas d'accès à la mer, mais pour le Népal, c'est compliqué d'aller vendre son thé. Alors on va prendre notre route et donc au départ c'est très plat, c'est un peu la jungle, il y a encore les bananiers, les caoutchoucs, ce que tu vois un peu chez un fleuriste à Paris avec des trucs qui font 20 cm de haut, là-bas tu regardes et ça fait 20 mètres de haut. Et très vite on va voir quelques plantations de thé, mais là un peu des grands domaines qui font des trucs pas terribles. Et peu à peu, la route va monter. C'est une route qui m'émeut beaucoup parce que les premières fois où je suis allé dans ce coin-là, c'était l'époque des maoïstes. Et en bagnole, il fallait arriver avant le soir. Il y avait des checkpoints, des couvre-feux. Il n'était pas question de rouler à la nuit tombée parce qu'en fait, les militaires, l'armée était flippée. Et c'était une période qui était assez dure et on rencontrait beaucoup de gens
un peu triste parce que souvent il s'était fait racketter ou parfois il y avait un fils qui leur avait été pris pour aller rejoindre l'armée, donc c'était des choses assez dures. Du coup, ça c'est aussi quelque chose qui fait du bien de se dire que parfois, parce que quand on regarde les nouvelles, on voit des choses horribles, et ben parfois on prend une route et on se dit bah là ça va mieux. Il y a pas grand monde qui le dit, mais ça va mieux et ça fait, c'est cool de se dire que il y a la paix là où avant c'était pas le cas. Et on va prendre notre route et on va faire un premier stop dans un petite manufacture qui s'appelle Ariatara. Alors évidemment, s'il était au bord de la route, ça serait simple. Donc notre Jeep, elle avance bien quand c'est la route nord-sud. Mais en fait, évidemment, il va falloir prendre des chemins de traverse. Et évidemment, les chemins de traverse, au départ, il y a un peu de goudron. Assez vite, il y en a de moins en moins. Et puis on finit avec des caillasses. Donc pour moi, c'est clair, je descends de la Jeep en général avant d'arriver à cette plantation-là qui est sublime. Alors le mot plantation, ça fait comme un jardin avec un gars au milieu, Saran Wright, tout petit, d'une gentillesse incroyable, qui est tellement étonné qu'on vienne le voir parce qu'il est au bout du monde. Et il est là avec quelques théiers et il fait des choses extraordinaires de façon complètement artisanale. Et il se réjouit à peine on arrive. Évidemment, il faut manger parce que dans beaucoup de pays, dès qu'on arrive, on vous donne à manger. Alors le premier pas au Népal, c'est très réjouissant parce que on vous sert beaucoup de riz et autour des choses toutes fraîches, toutes délicieuses, des petits légumes, des petites pommes de terre, des petites lentilles. Si on n'est pas veg, on a un petit morceau de poulet. Bon, ce qui sera moins marrant après, c'est qu'en fait, on y aura droit midi et soir et le petit-déj aussi. De temps en temps, ça sera les momos, les gros raviolis de l'Himalaya, mais voilà, on va être accueilli par... c'est lui qui est là et on va déguster des thés ensemble. La première chose à faire, juste avant ou juste après le repas, ça va être de regarder. Il va me dire, avec beaucoup d'émotion à la fois, parce que quelque part, je viens porter un point de vue sur ce qu'il vient de faire. Et alors, il va préparer dans des sets à déguster. Il y a tout un matériel pour faire... On fait pas du thé en théière. Hein. On a des petits récipients, tu vois, je t'ai préparé les mêmes pour qu'on les ait sous les yeux, qu'on puisse goûter du thé. Donc, il va non pas faire un seul thé, mais peut-être la dizaine de thés qu'il aura manufacturé dans les jours et semaines précédentes. Et donc, on fait infuser le thé. C'est très rigoureux. Hein. C'est 2,5 grammes dans un petit pot. Et on va bien avoir un minuteur sous les yeux. Faut pas oublier de le lancer pour pouvoir juger, en fait, de chacune des liqueurs. Et ensuite, il va me laisser déguster le thé. On fait du bruit, en fait, quand on goûte le thé, puisqu'on fait rouler la liqueur. Je vais déguster le thé, je vais regarder la feuille sèche, je vais regarder la feuille humide, et il va observer, attendre, jusqu'à temps que je lui propose de faire pareil, pour voir qu'est-ce que je pense, ce qui est un exercice pas évident. D'abord, c'est pas très facile de déguster quelque chose devant quelqu'un qui l'a fait, parce qu'on porte un jugement, et en plus, il y a le gros problème, quand on goûte du thé, de la qualité de l'eau, qui varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Donc ces deux paramètres-là se rendent les choses assez délicates et parfois c'est plus facile de goûter du thé à Paris. Mais là, je suis avec mon ami Saran Rai et on va goûter le thé ensemble. Et il fait un thé incroyable. Alors, il fait des petites quantités. Déjà, beaucoup de gens qui boivent du thé ne savent pas que c'est du camélia. Quand on boit du thé, c'est du camélia. Donc une plantation de thé, c'est une plantation de camélia. Et on va récolter. D'autres choses importantes à savoir, c'est que pour faire du thé vert ou pour faire du thé noir, c'est la même plante. C'est le même camélia. Mais en fait, c'est les gestes qu'on va faire ensuite dans la manufacture qui vont faire la différence. Et le thé noir est un thé oxydé. Donc, Ariatara, il va plutôt faire des thés noirs, des thés oxydés. Et on va regarder ensemble les outils qu'il utilise. Ensuite, on va prendre ce repas et se promener entre les théiers, regarder comment c'est, est-ce qu'il y a des oiseaux, est-ce qu'il y a des insectes, comment il fait pour nourrir les sols. C'est pas toujours simple. Quel problème il rencontre si il fait son compost lui-même, et regarder tous ces aspects-là. Et puis, surtout, prendre un peu de temps ensemble et pouvoir après repartir avec peut-être quelques échantillons. Alors, il voudra jamais me lâcher parce que des visites d'acheteurs indiens, il doit en avoir, mais des occidentaux qui viennent le voir, mais s'il y en a 3 par an, ça doit être le maximum. Du coup, alors bien sûr, moi j'ai ma route et je vais me dire, tiens, je vais remonter toute la vallée d'Ilam, je vais le faire en 3, 4 jours, 5 jours et m'arrêter un peu partout. Mais pour lui, c'est un événement considérable. Et du coup, il y a cette chose-là qui n'est pas toujours simple en voyage. Et en fait, ma vie de chercheur de thé, elle est toujours liée à ça. C'est qu'on vient de loin et qu'on n'a qu'une envie de rester et qu'on ne fait que passer. Et de ce point de vue-là, mais je crois que c'est la même chose pour tous les voyageurs, de ce point de vue-là, le voyage, parfois, c'est déchirant, c'est un grand mot, mais à la fois, on a sa route.
Mais parfois on se pose, on s'assoit au bord d'une route et on se dit pourquoi je resterai pas là, et on y est bien et ça fait tellement de bien, voilà. Mais il faut reprendre son baluchon, je reprends ma route.
On en a quand même pour une heure ou deux de caillasse, de route pourrie. Alors il n'y a pas un chat sur ces routes-là. Ils conduisent comme des dingues, mais il n'y a pas grand monde. Il y a plutôt des chèvres, des animaux et des chevaux aussi qui se baladent. En général, c'est des chevaux qui sont battés.
Et puis de temps à autre, mais alors là, avec tous les klaxons dehors, un bus avec beaucoup plus de monde sur le toit qu'à l'intérieur. Et à chaque fois, je me dis, en regardant ces bus-là, mais ils ont l'air tellement hilares, ceux qui sont sur le toit, que je me demande toujours comment se passe le remplissage et si d'abord le toit n'est pas plein avant de remplir l'intérieur. Ils sont super contents, tous les gamins, je ne sais pas s'ils vont à l'école, etc. Et avec une joie, en fait. C'est drôle parce que c'est pas un pays riche, le Népal. Et en même temps, on ressent une joie de vivre et une hilarité, une jeunesse, en fait, qui est assez incroyable. On va remonter notre route, on va aller dans la plantation d'après. Alors là, on va croiser des maisons bizarres sur le bord de la route parce qu'il y a pas mal de personnes au Népal qui sont... tu vois, moi, je vais chercher du thé, mais il y a des gens qui ont un autre métier que moi, je trouve un peu curieux, qui cherchent de la main-d'œuvre. J'en ai croisé, en général, qui viennent du Qatar, de Dubaï, et qui viennent chercher, en général, plutôt des hommes, plutôt assez jeunes, et qui leur proposent des contrats assez mirobolants. Des contrats de 3 ou 4 ans ou 5 ans, et ce qui fait qu'il y a plein de Népalais qui ne sont pas là. Le Népal, il est vide, et c'est un énorme problème pour l'agriculture, parce qu'ils se sont tous barrés, et ils sont en train de faire des tas de métiers. On pense à la construction, mais en fait, ils bossent dans des tas de métiers. Parfois, c'est des hôtels, dans les aéroports, etc. Et alors, ce qui est assez drôle, au bord des routes, c'est qu'on voit des maisons, parfois... avec des couleurs pas du tout traditionnelles, et ça s'appelle des golf houses. En fait, c'est ceux qui sont revenus du golf. Souvent, ils font un contrat, ils n'en font pas deux, mais ils sont revenus avec assez de thunes pour aller se faire des maisons plus grosses que celles des voisins, et souvent bariolées de couleurs un peu flashy, des verts, des couleurs un peu aquarelles, ou des roses, des verts, des bleus. Et du coup, au début de cette route-là, on en croise pas mal, et on va poursuivre notre chemin, et on va aller en direction de Darjeeling, mais on va s'arrêter avant. Un poste frontière qui s'appelle Pashupati Nagar. Et là, on va tomber sur un gars, lui aussi absolument incroyable, qui fait du thé dans sa maison. Alors, évidemment, personne, peut-être, ou pas grand monde, a vu une usine dans laquelle on fait du thé, mais d'habitude, c'est un bâtiment immense, c'est comme un grand entrepôt, il y a les feuilles qui flétrissent, après, il faut les rouler, après, il faut les laisser s'oxyder, il faut les sécher, il faut faire des tas de choses. Donc, le bâtiment, il est immense, comme une gigantesque grange dans une ferme qu'on peut avoir chez nous. Et Sonam, alors Sonam, déjà, c'est comme un bonze, c'est une sorte de moine. Et Sonam, il fait l'été dans sa maison. Et sa maison, ça sert aussi d'école. Donc, il reçoit des élèves. Et dans tout le sous-sol, il a été chercher, dans d'autres pays, à Taïwan, des machines très petites pour aller faire des très, très beaux thés, mais dans des toutes petites quantités. Là où des gens feraient du thé par 500 kilos, une tonne, lui, il fait du thé 30 kilos par 30 kilos, comme un petit atelier. Et il forme des gamins pour leur dire « Regardez comment on fait du thé ». Et ce que je trouve absolument génial, c'est que dans toute cette vallée qui a tendance à se désertifier à cause de tous ces gens qui s'en vont, et à cause de tous les gens, comme dans tous les pays, qui préfèrent aller dans les villes que de rester dans les campagnes, et ben lui, il arrive à faire des émules. Et grâce à lui, il y a d'autres jeunes aussi, des gamins qui font c'est assez drôle, hein, des gamins qui font ensemble des coopératives. Parce que finalement, pour faire du thé, on n'a pas forcément besoin d'avoir un champ. On peut aussi acheter à des fermiers qui ont quelques théiers, qui ont... Il y a des gens, ils ont des pommes de terre, du gingembre et du maïs, et puis du thé. Et du coup, Sonam, et avec ses élèves, ses étudiants, eh ben, il va aller acheter le thé aux gens autour. Et il va dans son petit atelier faire des thés absolument incroyables en toute petite quantité. Et ces thés, c'est une merveille. Alors pourquoi un thé, c'est une merveille? Ça, c'est compliqué parce que à chaque fois, on se dit, mais est-ce que c'est parce qu'il a un savoir-faire incroyable ou est-ce que c'est aussi la chance? Parce que ce qui est compliqué, le thé, c'est assez proche du vin. Il y a beaucoup de paramètres, mais il y a aussi le climat. S'il fait un jour de pluie, il est obligé de changer les paramètres par rapport à un jour où il fait sec parce que sinon, le thé, il va se réhumidifier, il va peut-être moisir, il va peut-être fermenter. Du coup, il y a un savoir-faire incroyable. Et tu vois, quand tu vas chercher du thé quelque part et que tu goûtes un thé sublime, à chaque fois, tu as envie de poser des questions. Et à Sonam, je vais lui poser 50 questions. Je sors mon petit carnet et je vais noter plein de questions pour essayer de comprendre déjà si les choses, elles se font par accident. Comment est-ce qu'il maîtrise quels sont les cultivars. Comme dans le vin, il y a des cépages, dans le thé, il y a aussi des cépages pour savoir qu'est-ce qu'il utilise et comment est-ce qu'il fait pour faire chaque chose. Et ce temps-là, pour moi, c'est un moment de bonheur, le moment où on se pose, on déguste le thé ensemble et je lui pose toutes les questions possibles sur sa manière de faire. Évidemment, on va manger aussi. Alors, lui, il est plutôt momo, à mon avis, que dalbat. Alors, les momos, c'est comme le ravioli. Hein. Le ravioli, de toute façon, on le retrouve dans aux quatre coins de l'Asie. Il n'a pas le même nom, mais c'est toujours à peu près le même et avec une sauce hyper forte. Et voilà, la même chose, Sonam, on ne se voit pas beaucoup, mais il va falloir reprendre la route avec des paysages magnifiques. C'est beaucoup de culture en terrasse, en fait, ce coin-là. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que le Népal, il y a quand même un monde de dingue qui y va. Bon, alors, il y a déjà tous les alpinistes, mais c'est quand même un pays qui attire énormément de touristes. Mais alors, je ne veux pas dire que tout le monde fait pareil, parce qu'il y a ceux qui vont pour faire de la haute montagne, et il y a beaucoup de gens qui vont à Pokhara, parce que c'est le plus connu, ou il y a ceux qui vont aller dans le parc. Mais en fait, quand on regarde l'est, l'extrême est du Népal et ces vallées-là, mais il n'y a absolument aucun touriste. Personne ne va dans la vallée de Hilé, dans la vallée d'Ilam, les deux dernières, les plus à l'est du pays. Il n'y a pas un chat. Et si on a envie d'aller marcher, c'est des endroits... Il n'y a personne sur les routes, à part un bus de temps à autre avec tous ces gens perchés dans tous les sens du terme. Il n'y a personne. Et du coup, le bonheur, c'est qu'on peut s'arrêter n'importe où, on peut se poser... On peut papoter avec les gens et il se passe quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui est fort au Népal, de pouvoir s'asseoir quelque part, de raconter, et avec des paysages incroyables, parce que depuis cette deuxième plantation, alors là, c'est du thé partout qu'on va avoir. Tout le paysage, ça va être du thé et parfois des champs en terrasse. Des paysages magnifiques. Il n'y a pas de culture intensive, donc c'est très joli parce que c'est un paysage très doux avec plein de cultures différentes. On voit encore les buffles dans les rizières. Et c'est quelque chose d'assez lent, en fait, très calme quand on compare avec l'Inde juste à côté où tout le monde est... L'Inde, c'est hystérique à côté du Népal. Alors, peut-être que ceux qui ont été en Inde ont trouvé ça calme. Mais si vous trouvez l'Inde calme, alors le Népal, c'est d'une lenteur incroyable. Et on va reprendre notre route. Alors, la route, elle est... Tu vois, on peut penser que si on part du niveau de la mer et qu'on va en direction des 8000, encore une fois, on va s'arrêter à 2005, 2004, on peut penser qu'on fait que monter, ben, ça serait trop simple. Parce que de temps en temps, il y a une rivière, et de temps en temps, alors qu'on arrive à peu près à 1000 mètres d'altitude, il faut redescendre jusqu'à 200 avec des routes en lacets absolument incroyables. Alors parfois, c'est un peu flippant parce qu'il y a des précipices à droite, à gauche, les voitures ne sont pas en bon état, et surtout, quand on voit le chauffeur de la Jeep, souvent, il a, selon sa religion, il a toujours quelque chose et il invoque, en termes de sécurité, la meilleure sécurité en général pour le chauffeur de Jeep, c'est la prière. Et donc, ça peut donner des résultats variables. Et bon, il prie pas tous aussi bien et assez fort, parce qu'on voit quand même pas mal de carcasses de bagnoles dans les ravins, donc il faut quand même faire attention. Et donc on va remonter, continuer à remonter plein nord. Parfois, encore une fois, on redescend, on traverse des petites rivières à gué. Et là, on se dit, c'est chouette qu'il n'y ait pas encore un viaduc et qu'il y ait notre petite route en lacet. Bon, alors il y a des camions qui polluent comme c'est pas permis. Il y a des nuages noirs, mais c'est un charme, cette lenteur-là. Puis, mon métier, c'est le thé, et le thé, c'est la lenteur. Et finalement, de se faire ce voyage-là, dans un pays comme ça, avec une certaine lenteur, eh ben c'est le bon rythme. Et puis, c'est des jolies routes. C'est pas une grande nationale qui traverse le pays d'est en ouest. Et donc, à force de continuer cette petite route, on va arriver dans une plantation qui, elle, ne nécessite pas un long trajet depuis la petite ville d'Ilam. Tu vois, je regarde mes feuilles sèches. Et là, on a un gars qui s'appelle Arsi. Et la plantation s'appelle Shangri-La. Et... Quand même, c'est bien d'apprendre 2-3 trucs sur le thé. Quand tu goûtes, quand tu mets un liquide comme le thé dans ta bouche, en fait, tu analyses avec 3 sens différents. Évidemment, la vue n'est pas concernée, l'ouïe non plus. Mais quand tu as ce liquide, ce thé en bouche, tu vas faire attention à la fois à ces arômes, hein, c'est d'une grande richesse. Là, on est boisé, végétal, fruité, un peu paille, un peu foin. On a le toucher. Ça a l'air rigolo peut-être pour du thé, mais le toucher, c'est l'astringence. C'est quand on passe sa langue sur sa joue ou sur son palais. Cette texture-là, parfois, ça peut être un peu gras, un peu huileux. D'autres fois, c'est un peu rugueux, une sensation de sécheresse. Et ça, c'est l'astringence. Et le thé est souvent astringent. Et enfin... Il y a les saveurs, et saveurs, c'est sucré, salé, acide et amer, et le thé est souvent avec une très légère pointe d'amertume. Donc tu vois, quand on goûte le thé, quand je suis avec Arsi, dans son bâtiment de Shangri-La, et qui m'a... Alors lui, il fait des thés incroyables, il fait des thés verts, des thés blancs, des thés semi-oxydés, qu'on appelle des thés bleu-vert, des pu'er, qui sont des thés fermentés. Et parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez génial, c'est qu'avec Internet, en fait, la moindre coopérative va regarder comment est-ce qu'on fait du thé par ailleurs. Alors moi, quand j'arrive et quand je me balade, quand je vais chez Saharan, chez Sonam ou Arsi, j'ai avec moi des thés d'autres pays. Et de cette manière-là, eux aussi peuvent voyager. Et ils vont toujours me demander, bon alors, t'amènes quoi avec toi ? Et je vais leur faire goûter des thés du Japon, de Chine. Et du coup, c'est chouette parce que je me dis qu'il y a un vrai échange et que moi, je suis là pour goûter leur thé, peut-être leur acheter. Et eux, grâce à ça, ils vont découvrir comment d'autres gens, sur d'autres montagnes, perchés à leur manière, eh ben, ils font aussi d'autres thés. Et donc, ce qui est spécifique avec ce gars-là, avec toute son équipe, c'est qu'ils essayent de faire des thés de plein de couleurs différentes et qu'eux aussi sont super contents quand on vient les voir. Alors, chez lui, on mange hyper bien. Souvent, je dors. De toute façon, partout, je peux dormir. Il y a des endroits un peu plus sommaires que d'autres. Hein. Mais en tout cas, là, on dort bien. Et depuis, chez lui, je peux aller encore rayonner dans les coopératives. Et ce qui est assez marrant au Népal aussi, c'est que c'est quand même assez souvent des coopératives. Et tu vois, là, on s'en va de Shangri-La, on va partir plein nord, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin, presque jusqu'à la fin, pour aller à Pativara. Donc là, c'est une très longue route, et que de temps à autre, on va s'arrêter sur le chemin, et on va s'arrêter notamment juste pour dire bonjour à Dili, dans un endroit qui s'appelle Kanchenjunga Tea Estate. Alors ça a le nom, et on voit pas tellement la montagne. Dili, que j'avais déjà rencontré, et cette fois-ci, il y avait une question qui me brûlait la langue, et qui était, parce que je sais jamais si on peut en parler ou pas, j'ai dit à Dili, bon alors, le Yeti, est-ce que tu y crois? Et alors, Dili, en plus, il est responsable de tous les producteurs de thé pour le Népal. Donc, il a rendez-vous à Katmandou parfois avec je ne sais pas quel ministre du commerce ou de l'agriculture. Donc, c'est quelqu'un d'important. Même s'il est là dans sa ferme, je sais qu'il représente beaucoup, qu'il représente un peu l'industrie du thé au Népal ou choses comme ça. Et du coup, Dili me regarde très sérieusement et il montre. Alors, il avait un geste, il mettait sa main à plat par rapport à la table à côté de laquelle. Et il me dit alors, ils sont hauts comme ça, pas plus. Un mètre de haut à peu près. Alors là, ça a été le début de la conversation et c'était génial. Et du coup, il m'a parlé du Yeti, de leurs habitudes, que c'était très gentil, que souvent, quand il y avait des personnes âgées dans les villages, des personnes malades, âgées ou pas âgées, en fait, des personnes malades, le Yeti venait la nuit et il venait déposer un petit bouquet d'herbes. Il connaît les plantes médicinales, il sait ce genre de choses. Et parfois, quelqu'un est malade et il va venir juste déposer des plantes à faire infuser et il s'en va. Et voilà, et j'ai dit à Dili, mais Dili, le Yeti, est-ce que tu l'as vu ? Alors, c'est quand même un pays où il y a des brumes incroyables, où il y a des... Tu vois, tu marches sur un chemin, mais t'as tellement de nuages dans ces contreforts himalayens que parfois tu vois pas à 3 mètres. Alors, qu'est-ce que peut imaginer quelqu'un ? Tu vois une silhouette, quelqu'un qui marche et qui voit quelqu'un qui marche, il voit une ombre qui se prenne. Dili, est-ce que tu as vu ? Et il m'a répondu, droit dans les yeux, écoute, je l'ai pas vu, mais j'ai vu celui qui l'avait vu. Du coup, je me suis dit, je suis pas loin. Et alors, voilà, je continue mon enquête. Le sujet du Yeti au Népal, il faut faire un peu attention parce que des Népalais pensent que quand on évoque ce sujet, c'est qu'on se moque d'eux. Donc, il faut le faire avec des personnes à qui on est un peu en confiance. Et Dili m'a raconté encore la façon dont, alors il paraît que les Yetis aiment la façon dont ils traient les vaches. Parce que le Yeti aime visiblement le lait. Et surtout, il a eu un geste tellement joli de sortir un mouchoir de sa poche. Et il m'a dit, le Yeti, c'est comme ça qu'il s'en va. Il lance un mouchoir et il s'envole. Et il part comme ça. Tout ça, c'est plein de poésie. Et tu vois ce que j'aime dans cette histoire de Népal, de Yeti, on en pense ce qu'on veut. Mais toutes ces brumes, c'est le mystère, c'est la magie. Et ça fait du bien aussi, alors que nous, on est d'un pays tellement rationnel, etc., de se dire aussi, il y a encore de la place pour des croyances un peu différentes. Et voilà. Et alors, on continue notre route. On va remonter avec plus d'altitude. Alors, c'est drôle au Népal, c'est que plus tu remontes et plus les gens physiquement changent aussi. Hein. Tu vas avoir des yeux plus bridés, des pommettes saillantes. On sent qu'on se rapproche du Tibet qui n'est pas si loin que ça. Les ethnies ne sont plus les mêmes. Le vêtement, il fait plus froid aussi. Tu vas mettre ton petit pull. Et on va jusqu'à une plantation qui est vraiment, t'as vraiment l'impression d'être tout au bout du monde et qui s'appelle Pativara. Là aussi, quand tu quittes la grande route pour aller vers cette manufacture, quand tu quittes cette route, t'as encore un très long chemin. Ce que je t'ai pas dit aussi et qui est très très poétique aussi dans certains endroits, alors ça se passait tout à l'heure quand on était à Shangri-La, c'est que comme ils récoltent les feuilles de tous les fermiers environnants, C'est assez émouvant de voir des gens qui arrivent en tirant un cheval. Et il m'est arrivé de suivre certains de ces fermiers qui arrivaient et qui partaient à 4 heures du matin d'un village avec des chevaux, avec des vrais dangers, avec des pentes absolument incroyables. Tout ça pour être à la manufacture de thé le matin à 7 heures du mat et que les feuilles de thé, elles puissent être manufacturées. Et c'est aussi ça, c'est cette ruralité-là qui est assez émouvante au Népal et de voir tous ces gens qui marchent. Et c'est un pays où tout le monde marche, et ça fait du bien, je trouve, aussi ce rythme-là et cette lenteur-là. Alors, on arrive à Pativara, on est parti il y a longtemps, et on arrive le soir, et alors là, plus on est dans un endroit reculé du Népal, et plus tout le village est là. T'as les anciens, toujours coiffés avec leur fameux, j'en ai un avec moi, leur fameux topi. Et donc, il faut évidemment manifester beaucoup de respect au père du village. Parfois, il y a des gens très âgés. J'ai vu des gens de plus de 90 ans comme ça dans des villages au Népal. Et il fait un discours de bienvenue. Toi, il faut remercier tout le monde, tout le village est là, les enfants, etc. Et puis, après s'être dit toutes les choses les plus gentilles possibles, tout ça en plein air, tout ça avec un ciel magnifique, avec des montagnes incroyables de blanc au loin. Et on va aller déguster tout l'été qui ont pu être fait. Alors là, c'est fait de façon un peu sommaire. Alors les 7 à dégustation, ils y sont toujours parce que sinon, on peut pas préparer le thé. Et c'est sur une jolie table, etc. Et puis, quand on aura goûté le thé, tu vois, ici, on est à Paris, cette pièce est un peu comme un labo, on a tous nos thés devant nous. Et du coup, c'est plus facile de goûter le thé parce que tu peux te concentrer, te dire comment est-ce que tu le trouves. Mais quand tu as des gens que tu aimes, sur place, par exemple, il y a Uday qui est un des responsables, et que tu vois ses yeux, l'expression de ses yeux, et qui te regarde... juste pour savoir, alors, comment est-ce que tu trouves mes thés ? C'est extrêmement difficile d'avoir une opinion objective, et parce que on est chargé de l'un comme l'autre, on est chargé de plein d'émotions. Ça paraît peut-être bizarre, parce que finalement, on achète, on vend quelque chose, mais c'est inimaginable l'émotion qu'il y a, parce que quelqu'un qui fait un très beau thé, il n'a pas grand monde à qui le vendre, et quelqu'un comme moi qui achète des très beaux thés, ben, j'ai pas 150 fournisseurs possibles dans le pays, et du coup... on fait hyper attention, en fait, l'un à l'autre. Et donc, on va goûter ce thé. Je vais essayer d'oublier le regard d'Uday pour arriver à être objectif et surtout pas le décevoir et surtout dire tout ce que je peux dire de positif de la façon la plus franche possible. Et donc, il y aura ce moment très important où on va regarder, on va beaucoup parler des différentes feuilles de thé. On va les toucher, on va les sentir. On parle de choses et d'autres et puis on revient au thé. On reprend le petit pot en porcelaine, on le referme, on sent... ça peut durer une heure comme ça à discuter, puis après il fait frais, et dans ce coin de montagne là, encore une fois on est dans un endroit tellement reculé, tu vois, à toi, à moi, ils vont passer les colliers de fleurs autour du cou parce que c'est une fête, ce qui n'est pas évident d'ailleurs quand tu dois déguster du thé et que tu as des fleurs tout autour de la tête, c'est pas évident de faire abstraction de ça. Et puis une fois qu'on a parlé beaucoup, qu'on a dégusté mais plein de fois tout cet été, qu'il a encore sorti des nouveaux échantillons, refait infuser, et ben il y a de la musique, il y a les jeunes qui arrivent avec des tambourins, avec des tas d'instruments, il y a des chants, il y a de la danse, et on est dehors, on est assis ou on danse, et c'est comme ça que la journée s'achève peu à peu, on voit la lumière qui faiblit, et on commence à déguster, c'est plus l'heure du thé, on va manger des petits momos, on va peut-être servir la tongba, c'est l'alcool qu'on va boire dans ces montagnes, c'est du millet fermenté, qu'on te sert dans un grand pot en bois et on verse de l'eau chaude et tu bois avec une paille en fer, chacun a son pot, et on va boire la tongba et on va chanter, danser jusqu'à la nuit et avec un moment de bonheur et tout ça en pleine nature, en communion avec la nature. Et inutile de dire que le thé dans des endroits pareils, évidemment qu'il n'y a aucun produit intrants qui ne vont pas s'amuser à aller mettre quoi que ce soit. Donc c'est... enfin, à tout point de vue, c'est un vrai bonheur. Et je sais que je m'endormirai dans une chambre un peu sommaire. La literie au Népal, c'est pas forcément le truc le mieux. Mais on s'en fout, on est au milieu de gens qu'on aime. Et qu'est-ce que ça peut faire d'aller dormir sur une planche en bois et d'avoir à la place d'une vitre une feuille de papier journal. Et voilà, et c'est comme ça que se termine cette longue route, cette longue vallée d'Ilam que j'aime énormément. Et qui est aussi drôle parce que à vol d'oiseau, on est à quoi ? À 50 km de Darjeeling, peut-être. Et c'est le jour et la nuit. Les paysages sont assez proches, les gens sont assez proches. Mais en fait, du côté de Darjeeling, on en a fait peut-être pas une industrie, mais quelque chose à très, très grande échelle. Et là, on est dans quelque chose de complètement rural. Et puis cette idée de mettre les feuilles en commun, que les fermiers ils viennent d'un peu partout et que chacun apporte ses feuilles, qu'il y ait des coopératives avec 100, 150 membres, ben, je trouve que c'est beau. Et puis encore une fois, le Népal n'a pas beaucoup de chance parce que sans pouvoir exporter ses thés par bateau, c'est compliqué parce que ça renchérit beaucoup le coût du thé. Et du coup, je suis heureux si on peut faire quelque chose pour que les gens restent sur leur terre, en fait. Ça me paraît important, donc je suis heureux que Palais d'été fasse le job qu'il faut avec ces gens que j'aime beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Alors ce voyage-là, parce que j'aime beaucoup le Népal et j'aime beaucoup de choses sur ce pays. J'ai aussi appris le hindi, alors c'est pas la langue qu'on parle au Népal, mais ça permet aussi d'avoir un contact quand même avec les gens assez incroyables. Et bon, en fait, j'ai envie d'emmener tout le monde au Népal, tous mes amis, j'ai envie de les emmener au Népal. Je suis amoureux du Népal, mais il y a d'autres pays que j'aime énormément aussi, alors c'est difficile.
Comment on se retrouve à voyager au Népal pour chercher du thé ?
Bah, ça, c'est toute ma vie, parce que, bon, tu sais, moi, j'ai pas fait d'études, j'étais nul à l'école. Et j'ai ouvert une petite boutique, donc, le fameux palais d'été. Au départ, c'était trois fois rien. Et puis, en fait, tu vois, ça fait 30 et quelques années que je fais ce boulot-là. Et puis, la boîte, elle a grandi. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît dans mon métier, c'est ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que plus l'entreprise palais d'été a grandi, et bah, plus j'ai eu les moyens de faire ce que j'aimais. Et ce que j'aime, c'est prendre mon baluchon et passer du temps. J'aime bien être dans les boutiques aussi parce que j'ai l'impression d'être une passerelle entre le fermier à qui je vais acheter du thé et puis la personne qui va pousser la porte d'une boutique et qui a envie de tout savoir. En fait, les deux sont extrêmement curieux l'un de l'autre. Et c'est du bonheur d'être cette passerelle. Donc, tu vois, je voyage pour ça, pour mon métier, parce que... Et puis aussi parce que je connaissais rien au thé, je suis venu là-dedans complètement par accident, c'est des concours de circonstances. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que la seule personne qui a envie de t'apprendre des choses sur le thé, bah, c'est celui qui le fait. Et je lui dois tout à celui qui fait le thé. En fait, tout ce que je sais sur le thé, c'est grâce aux fermes au Japon, en Inde, en Chine, au Népal, enfin, beaucoup de pays.
Qu'est-ce que tu conseillerais justement à celle ou celui qui veut s'initier au thé ?
Alors, je lui conseillerais de sentir les feuilles. Je pense qu'il faut aller dans un endroit, de pouvoir aller dans une boutique où on peut soulever, où il y a des grands pots et on peut soulever les couvercles. L'olfaction, c'est quand même un sens extrêmement important, notamment dans tout ce qui concerne la dégustation. Et oui, de sentir le thé, ça me paraît essentiel. Après, si quelqu'un sait pas trop, je pense que quelqu'un qui connaît pas le thé, alors on va plutôt vers des thés noirs quand on connaît pas. Cependant, il y a un thé vert qui en général fonctionne très bien, et qui s'appelle le Genmaicha, et qui est un thé vert japonais avec du riz, et ça permet assez facilement, une odeur un peu de torréfaction, et c'est un thé qui plaît beaucoup. C'est l'un des deux thés avec un peu de torréfaction, comme le Bancha Ojicha japonais. Ces deux thés-là, ils sont très faciles pour faire aimer le thé si on veut découvrir des thés verts ou grillés et si on a envie d'essayer autre chose que le thé noir.
Pour revenir un peu sur le voyage, toi, à quel point tu prépares tes voyages et quelle place tu laisses à l'improvisation ?
J'aurais envie de dire les deux, mon général. En fait, je prépare beaucoup et je suis prêt à tout changer. En fait, je suis assez... Tout est vraiment hyper préparé. Je sais à quel endroit je vais, je sais combien de temps je reste. Mais en fait... Ça me fait comme un chemin très strict, mais je suis tout à fait prêt à ce que finalement, tu vois, tout à l'heure, on va voir Aryatara, mais si Saran Rai, il me dit, tiens, écoute, là, il est pas loin, il y a quelqu'un, je voudrais te le présenter, eh ben, évidemment que je le fais. Et évidemment que je change et que je préviens et je change. Je vais plutôt chercher à faire davantage de choses que je peux et puis après essayer de faire au mieux. Et bien sûr que je vais saisir toutes les occasions, opportunités pour faire le pas de côté et prendre le chemin de traverse. Et il y a aussi un truc, alors ça j'ai un peu de mal parfois en voyage, c'est que moi je suis fan de marche, moi j'ai besoin de marcher. En plus tu vois, moi j'ai dans des endroits super reculés, t'as des heures de jeep, ras-le-bol au bout d'un moment. Et moi il faut que je fasse des kilomètres, et souvent les gens, les fermiers, etc., c'est pas forcément des grands marcheurs, et parfois je vais dire, bon, on va aller se balader dans ton champ de thé, c'est pas tellement, bien sûr que j'ai envie de marcher dans le champ de thé, mais c'est surtout parce que j'en peux plus et que je veux faire une marche, quoi. Et si ça peut durer un kilomètre, deux, trois, c'est top. Voilà, donc dès que je peux prendre un pas de côté, même si mon programme il disait autre chose, je suis content comme ça. Puis tu sais, le voyage, c'est à lui de décider, c'est pas à toi de décider.
Mis à part du thé pour les faire goûter aux fermiers, qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi dans ton sac quand tu voyages ?
Je vais prendre l'appareil photo parce que j'ai un blog et que pendant longtemps d'ailleurs je l'ai pas fait, mais l'appareil photo c'est indispensable, et du matos pour goûter du thé le soir. Tu vois, je vais de plantation de thé en plantation de thé, n'empêche que le soir parfois quand je dors dans un petit hôtel, je vais encore aller comparer le thé de telle plantation avec le thé de telle autre, et ça je peux le faire que moi-même. Et je vais toujours venir avec du thé d'autres endroits pour faire découvrir aux fermiers auxquels je rends visite.
Tu mentionnais rapidement la photo et un blog.
Ouais.
Comment tu documentes et comment tu racontes tes voyages, justement ?
Bah, je raconte avec la photo. Prends des photos. Je suis heureux de faire le blog parce que finalement, à quoi ça sert d'aller dans des endroits mais sublimes, de rencontrer des gens ? Tu vois, je voyage tout seul. Mais moi, je suis hyper sociable. J'adore rencontrer des gens. Et raconter, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est dur de ne pas raconter. Et finalement, la photo... ça me plaît beaucoup pour ça. Et du coup, je prends pas mal de photos et après, je les feuillette et je choisis quelque chose. Quand je vois une photo qui me fait quelque chose, tu vois, qui me fait un petit truc sur la peau, quelque chose comme ça, je me dis, bon, ben celle-là, j'ai un truc à dire et je vais faire un petit texte qui l'accompagne.
Pour se parler du retour à présent, une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu as atteint du blues du voyageur, du blues post-voyage ? Et
non.
Si c'est le cas, comment tu te soignes ?
Je suis pas atteint, pour une raison simple. J'y suis toujours quand je suis revenu. Dans ma tête, je reste là-bas en fait. Tu vois, j'ai devant moi la carte, etc. Mais moi, j'y suis. Mais pas...
Tu mentionnais juste avant les rencontres et à quel point c'est important pour toi. Mm. Comment tu considères du coup la rencontre en voyage ? Et est-ce que dans tous tes voyages, tu as une rencontre qui t'a particulièrement marqué ?
Il y en a partout. Il y en a plein. Des gens que j'aime beaucoup, dans beaucoup. Du coup, c'est le côté qui n'est pas forcément très simple. C'est que déjà, quand tu t'apprêtes à faire un voyage, tu te dis, est-ce que je vais retourner voir des gens que je connais, des gens que j'aime, ou est-ce que tu vas rencontrer, partir à la découverte sur des nouvelles routes ? Et évidemment, dès ce moment-là, tu es déjà partagé entre les deux et tu hésites. Et le nombre de personnes où je me suis dit, mais c'est sûr, là, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je reviens les voir, et puis je constate que 10 ans après, je suis pas revenu. Et ça, c'est le côté pas... bon, mais c'est un luxe, quand même, tu vois, d'avoir ce genre de problématique. Mais... Et puis, par chance, j'ai encore le thé, et le thé, ça fait comme un média, en fait. Tu vois, là, il y a le thé qu'a fait Saran Rai. Bah, je peux le déguster, je peux penser à lui en goûtant son thé, et quelque part, je suis un peu avec lui. Et tu vois, avec l'esprit, avec la dégustation, tu voyages aussi.
Pour se parler du futur maintenant, quels sont les voyages que tu as prévus et où est-ce que tu aimerais aller pour découvrir d'été ?
Alors, les voyages que j'ai prévus, mais avec ce fichu Covid, c'est pas très simple en ce moment de s'organiser. J'ai prévu d'aller en Tanzanie, où il y a du thé qui pousse sur les pentes du Kilimandjaro. Alors, pas là où il y a de la neige, hein, sinon le camélia, ça lui plaît pas trop, mais pareil autour de... Faut pas que ça dépasse de beaucoup 2000. Je voudrais retourner au Malawi, qui est un pays que j'aime beaucoup. L'Afrique, les gens savent pas que l'Afrique fait du thé, donc ça vaut le coup d'aller chercher des fermiers. L'Ouganda, j'aimerais beaucoup. L'Indonésie aussi, il y a pas mal de thé. J'aime énormément le Japon. Tu vois, toute la région de Kyushu, l'extrême sud du Japon, où t'as des plantations de thé. Et puis Darjeeling, qu'est-ce que j'aimerais... Là, j'ai été en Géorgie il y a un mois. Je rêve d'y retourner. Je voudrais aller dans beaucoup d'endroits. C'est difficile. Mais c'est la chance est quand même incroyable. Le nombre d'endroits où... Les Açores, tu vois, il y a du... Mais bon, les Açores... de ce que j'ai pu goûter, le thé n'est pas exceptionnel. Donc pourquoi ? Je ne vais pas non plus aller dans un endroit, j'ai pas envie d'aller rencontrer des personnes. Si c'est pour leur dire que leur thé, il n'est pas extra, c'est franchement pas très malin. Bien sûr que j'ai envie d'aller comme ça. Et l'Amérique du Sud se met aussi à faire des bons thés, Pérou, Équateur. Tu vois, les routes du thé, elles sont nombreuses.
La vie est trop courte pour boire du mauvais thé.
Ouais, exactement. Et la vie est trop courte pour faire le tour du sujet du thé en une vie entière. Enfin, moi, j'en ai pas fini d'apprendre sur le thé. En fait, plus tu sais et plus tu te rends compte que t'as de choses à découvrir. C'est sans fin, ce truc.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc, tu as un petit espace qui t'est réservé dans lequel tu peux partager une dernière anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation. C'est à toi.
Alors, si vous avez envie de voir des belles images de thé, vous pouvez regarder chercheurdethé.com. Si vous avez envie d'entendre quelques voyages, il y a un podcast qui s'appelle Un thé, un voyage. Et un proverbe, écoute, il y en a un que j'aime bien, qui est un proverbe japonais, qui dit Ichigo Ichi-e, et qui signifie que le moment présent n'existe que maintenant.
Merci beaucoup, François-Xavier.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.